ressortit du supermarché avec 3 sacs de courses, qu'il déposa dans le coffre de sa voiture. Puis il consulta son téléphone. 2 messages de Yunel Sablo. Il ouvrit d'abord celui auquel était jointe une photo. Sur ce cliché d'identité judiciaire, Claude Bolton faisait beaucoup plus jeune que l'homme qu'il avait interrogé avant l'arrestation de Maitland. Il paraissait complètement défoncé. Regard vague, joue éraflée et quelque chose sur le menton qui pouvait être du jaune d'œuf ou du vomi. Ralph se souvint que Bolton avait affirmé qu'il assistait aux réunions des narcotiques anonymes à cette époque et qu'il avait décroché depuis 5 ou 6 ans. Peut-être que oui, peut-être que non. Le document joint au second message de Yunel était le casier judiciaire de Bolton. Celui-ci contenait une longue liste d'arrestations, essentiellement pour des délits mineurs, et de signes distinctifs, parmi lesquels une cicatrice dans le dos, une autre sous les côtes, à droite, une autre sur la tempe, droite, et environ 2 douzaines de tatouages. Un aigle, un couteau à la lame sanglante, une sirène, et une tête de mort avec des bougies enfoncées dans les orbites, et un tas d'autres dont Ralph se fichait. Ce qui l'intéressait, c'était les mots inscrits sur ses doigts. Kant, je ne peux pas, à droite, must, je dois, à gauche. L'homme brûlé posté devant le palais de justice avait des tatouages sur les doigts lui aussi. Mais s'agissait-il des mêmes? Ralph ferma les yeux et essaya de visualiser la scène, en vain. Il savait, par expérience, que les tatouages sur les doigts étaient courants chez les prisonniers. Sans doute avait-il pris cette idée dans les films. On voyait souvent « love » et « hate » ou bien « good » et « bad ». Il se souvint que Jack Hoskins lui avait parlé d'un petit cambrioleur à tête de rat qui arborait « suck » et « fuck » sur ses phalanges, en soulignant que ça ne devait pas l'aider pour draguer. La seule chose dont Ralph était certain, c'était qu'il n'y avait pas de tatouages sur les bras du brûlé. Ceux de Claude Bolton en étaient couverts. Mais évidemment, les flammes qui avaient ravagé le visage du brûlé avaient pu les effacer. Seulement, impossible que cet homme devant le tribunal ait été Bolton, dit-il à voix haute en ouvrant les yeux pour regarder les gens qui entraient dans le supermarché et en sortaient. Impossible, Bolton n'était pas brûlé. C'est de plus en plus dingue, avait-il dit à Holly Gibney la veille.
Et ce n'est pas fini,
avait-elle répondu. Elle avait bien raison. 8. Ils rangèrent les courses. Cette tâche achevée, Ralph annonça à Gianni qu'il voulait lui montrer quelque chose sur son portable.
Quoi donc?
Regarde, et dis-toi bien que la personne sur cette photo est un peu plus âgée aujourd'hui. Il lui tendit son téléphone. Sa femme regarda le cliché d'identité judiciaire pendant 10 secondes, avant de lui rendre l'appareil. Ses joues étaient presque livides.
C'est lui. Il a les cheveux plus courts maintenant et un bouc a remplacé sa petite moustache. Mais c'est bien l'homme que j'ai vu ici la nuit dernière. Celui qui a menacé de te tuer. Comment il s'appelle?
Claude Bolton.
Tu vas l'arrêter?
Pas tout de suite. D'ailleurs, même si je le voulais, je ne sais pas si je pourrais, vu que je suis en congé administratif.
Que comptes-tu faire alors?
Dans l'immédiat, essayer de savoir où il se trouve. Son premier réflexe fut de rappeler Yunel. Mais il enquêtait sur Holmes, le tueur de Dayton. Sa deuxième idée, Jack Hoskins, fut immédiatement rejetée. C'était un ivrogne doublé d'une pipelette. Heureusement, il lui restait une troisième solution. Il contacta l'hôpital, où on l'informa que Betsy Riggins était rentrée chez elle avec son petit bout de chou. Il lui téléphona aussitôt. Après avoir demandé comment se portait le nouveau-né, provoquant un monologue de 10 minutes concernant aussi bien l'allaitement que le coup des couches, il lui demanda si elle accepterait de donner un coup de main à un cher collègue en passant quelques appels, à titre officiel. Il lui expliqua ce qu'il voulait.
C'est au sujet de Maitland?
Betsy, étant donné ma situation actuelle, moins tu en sauras, mieux ça vaudra.
Ça signifie que tu risques d'avoir des ennuis. Et moi aussi, pour t'avoir aidé.
Si tu t'inquiètes à cause du chef Geller, sache que je ne lui dirai rien. S'ensuivit un long silence. Ralph attendit. Finalement, Betsy dit.
J'ai de la peine pour l'épouse de Maitland. Beaucoup de peine. Elle m'a fait penser à ces reportages qu'on voit à la télé après un attentat suicide, à ces survivants qui déambulent avec du sang dans les cheveux, sans comprendre ce qui vient de se passer. Tu penses que ce que tu me demandes pourrait l'aider ?
Possible, mais je ne veux pas en dire davantage.
Je vais voir ce que je peux faire. John Zellman n'est pas un abruti total, et son club de striptease a besoin de renouveler sa licence tous les ans. Cela pourrait l'inciter à coopérer ? Je te rappelle si je fais chou blanc. Mais si ça se passe comme je le pense, c'est lui qui t'appellera.
Merci, Betsy.
Ça reste entre nous, Ralph. Je compte bien retrouver mon boulot en revenant de congé maternité. Compris ?
Message reçu 5 sur 5. 9. John Zellman, propriétaire et gérant du Gentleman Please, appela Ralph un quart d'heure plus tard. Il paraissait plus curieux qu'agacé et désireux d'apporter son aide. Oui, il était certain que Claude Bolton se trouvait au club quand le pauvre gamin avait été enlevé et assassiné. Comment pouvez-vous être aussi affirmatif, monsieur Zellman? Je croyais qu'il prenait son service à 16 heures seulement.
Oui, mais il est arrivé plus tôt ce jour-là, vers 14 heures. Il voulait un congé pour aller à la grande ville avec une des filles. Elle avait un problème personnel, paraît-il.
Zellman ricana.
C'était plutôt lui qui avait un problème personnel, sous la ceinture.
Une certaine Carla Jepson, demanda Ralph, en faisant défiler la transcription de la déposition de Bolton sur son iPad. Alias fée espiègle ?
Elle-même,
répondit Zellman en riant.
Si l'absence de Nichon n'a aucune importance, cette fille va faire carrière. Il y en a qui aiment ça. Me demandez pas pourquoi. Entre Claude et elle, il y a un truc. Mais ça va pas durer. Son mari est derrière les barreaux. Chèque en bois, je crois. Mais il doit sortir à Noël. Elle tue le temps avec Claude. Je le lui ai dit, d'ailleurs. Mais vous savez ce que c'est. Il pense avec sa bite.
Vous êtes certain que c'est bien ce jour-là qu'il est venu travailler plus tôt, le 10 juillet ?
Certain. Je l'ai bien noté car il n'était pas question que Claude soit payé pour passer 2 jours à Cap City alors que, 2 semaines plus tard, il devait prendre ses congés, payés, par-dessus le marché.
Scandaleux, en effet. Vous avez envisagé de le renvoyer ?
Non, au moins il jouait franc jeu. Et puis, je vais vous dire, Claude fait partie des bons videurs. Ils sont plus rares que les dents dans la bouche d'une poule. La plupart sont des gonzesses qui jouent les durs mais qui se défilent dès qu'une bagarre éclate. Comme ça arrive parfois. Ou alors des types qui se la jouent à la Hulk chaque fois qu'un client les prend de haut. Claude est capable de flanquer un type à la porte en cas de besoin, mais la plupart du temps, c'est pas nécessaire. Il sait calmer les excités. Il a un truc. Je crois que c'est grâce à toutes ces réunions où il va.
Les narcotiques anonymes ? Il m'en a parlé.
Oui, il s'en cache pas. Il en est même fier. Et il a le droit de l'être. Il y a plein de camés qui n'arrivent pas à décrocher. Quand cette saloperie vous tient, elle vous lâche plus. Elle a de sacrés crocs.
Il est clean, alors ?
Je le saurais, sinon. Les junkies, je les repère, inspecteur. Croyez-moi, pas de ça aux gentlemen.
Ralph avait des doutes, mais il ne releva pas. Jamais de rechute ?
Ils rechutent tous. Au début, du moins. Mais pas Claude. Pas depuis qu'il travaille pour moi. Il boit pas, non plus. Un jour, je lui ai demandé pourquoi, vu que son problème, c'est la drogue. Il m'a répondu que c'était kiff-kiff. Il m'a expliqué que s'il buvait un verre, même une bière, ça lui donnerait envie de s'enfiler de la coke, ou un truc encore plus fort.
Après une pause, Zellman ajouta.
C'était peut-être un salopard à l'époque où il se camait, mais plus maintenant. C'est un gars bien. Dans un métier où les clients viennent pour boire des margaritas et mater des chattes rasées, c'est pas courant.
Je comprends. Bolton est en vacances ?
Ouais, depuis dimanche, 10 jours.
Ce qu'on pourrait appeler des vacances à domicile ?
Vous voulez dire, est-ce qu'il est ici ? À FC ? Non, il est au Texas, quelque part près d'Austin. C'est de là qu'il vient. Attendez une seconde. J'ai sorti son dossier avant de vous appeler.
Ralph entendit un bruit de feuilles. Puis Zellman revint en ligne.
Marysville, c'est le nom du bled. Juste un gros point sur la carte, d'après ce qu'il dit. J'ai noté l'adresse parce que j'envoie une partie de sa paie là-bas, tous les 15 jours. À sa mère. Elle est âgée et mal en point. Elle a de l'emphysème. Claude est parti voir s'il pourrait pas la mettre dans une maison pour personnes dépendantes, mais il n'y croyait pas trop. Il dit que c'est une vieille bique têtue. De toute façon, je vois pas comment il pourrait payer, avec ce qu'il gagne ici. Le gouvernement devrait aider les pauvres gars comme Claude à s'occuper d'une personne âgée, mais il s'en fout.
Disait l'homme qui avait sans doute voté pour Donald Trump, songea Ralph. Eh bien, merci, monsieur Zellman.
Je peux vous demander pourquoi vous voulez lui parler ?
Oh, juste quelques questions de routine, des détails.
Pour n'en négliger aucun, c'est ça ?
Exact. Vous avez son adresse ?
Oui, vous avez un crayon ?
Ralph avait son fidèle iPad, ouvert sur l'application Quick Notes. Je vous écoute.
Boîte 397, Rural Star Road 2, Marysville, Texas.
Et le nom de sa mère ? Zellman s'esclaffa.
Lovey, qu'est-ce que vous dites de ça ? Lovey Ann Bolton.
Ralph le remercia de nouveau et coupa la communication.
Alors ?
Demanda Jenny. Attends un peu. Tu remarqueras que j'ai la tête du gars qui réfléchit.
En effet. Est-ce que tu peux boire un thé glacé pendant que tu réfléchis ?
Elle souriait. Ça lui allait bien. C'était un pas dans la bonne direction. Certainement. Il reporta son attention sur son iPad, en se demandant comment il faisait avant, sans ce fichu appareil, et localisa Marysville, à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Austin. Un simple point sur la carte, en effet, dont l'unique titre de gloire était un truc baptisé Marysville Hall. Il réfléchit à ce qu'il allait faire à présent, en sirotant son thé glacé. Puis il appela Horace Kinney, de la police de la route du Texas. Devenu capitaine, Kinney passait le plus clair de son temps derrière un bureau. Mais Ralph avait travaillé avec lui dans plusieurs affaires à cheval sur différents états, à l'époque où Kinney parcourait 150 000 km par an dans le nord et l'ouest du Texas. « Horace, » dit Ralph quand ils eurent échangé les banalités d'usage, « j'ai un service à te demander. »«
Grand ou petit ?»«
Moyen, et ça nécessite un peu de doigté. »
« Faut aller dans le Connecticut ou à New York pour ça, mon vieux. Ici, c'est le Texas. Alors, qu'est-ce que tu veux ?»
Ralph le lui dit. Kinney lui répondit qu'il avait l'homme qu'il lui fallait. Il se trouvait justement dans le secteur. 10. Cet après-midi-là, sur le coup de 15h, Sandy McGill, standardiste de la police de Flint City, découvrit en levant la tête Jack Hoskins planté devant son bureau, de dos.
Jack, vous avez besoin de quelque chose ?
Regardez ma nuque et dites-moi ce que vous voyez.
Perplexe, mais de bonne volonté, Sandy se leva pour regarder.
Tournez-vous un peu plus vers la lumière.
Jack s'exécuta.
Oh, vous avez un sacré coup de soleil. Vous devriez aller acheter de la crème à l'aloe vera. Ça guérira le coup de soleil ?
Seul le temps le guérira, mais ça soulagera la sensation de brûlure.
C'est bien un coup de soleil, hein ?
Sandy plissa le front.
Oui, oui, un sérieux même, avec des cloques. Vous ne savez pas qu'il faut mettre de la crème solaire à la pêche ? Vous voulez attraper un cancer de la peau ou quoi ?
Le simple fait d'entendre ces mots prononcés à voix haute intensifia la sensation de chaleur sur sa nuque.
J'ai oublié.
Et sur les bras, c'est comment ?
Beaucoup moins grave.
À vrai dire, il n'y avait même aucune brûlure. C'était uniquement sur la nuque, là où quelqu'un l'avait touché, dans cette grange abandonnée, du bout des doigts.
Merci, Sandy.
Les blonds et les roux sont les plus sensibles. Si ça ne s'arrange pas, vous devriez aller voir un médecin.
Jack quitta le bureau sans répondre. Il pensait à l'homme dans son rêve, tapis derrière le rideau de douche.
Et je te l'ai donné, mais je peux le reprendre. Tu voudrais que je le reprenne ?
Il songea.
Ça disparaîtra tout seul, comme n'importe quel coup de soleil.
Peut-être, peut-être pas. Et ça faisait de plus en plus mal. Il pouvait à peine y toucher, et il ne cessait de repenser à ces plaies ouvertes qui rongeaient la peau de sa mère. Au début, le cancer avançait en rampant. Mais une fois bien installé, il s'était mis à galoper. À la fin, il dévorait sa gorge et ses cordes vocales, transformant ses hurlements en grognements. Néanmoins, le jeune Jack Hoskins, âgé de 11 ans, qu'il écoutait à travers la porte close de sa chambre de malade, comprenait très bien ce qu'elle demandait à son père. De mettre fin à ses souffrances.
« Tu le ferais pour un chien ?»
disait-elle de sa voix éraillée.
« Pourquoi tu refuses de le faire pour moi ?»«
C'est juste un coup de soleil, »
dit-il en faisant démarrer sa voiture.
« Rien de plus. Un putain de coup de soleil. »
Il avait besoin d'un remontant.